Eh bien, nous retrouvons notre chroniqueur Mohamed Tiéné. Bonjour Mohamed.
Bonjour Xavier.
Alors aujourd'hui, le titre de ta chronique, l'Afrique si loin du bonheur, crise post-électorale en Afrique. Alors tout un sujet, les élections en Afrique. Décris-nous un petit peu comment se passent les campagnes et les élections en Afrique, souvent.
Alors, comme l'indique le titre de cette chronique, c'est-à-dire que les élections en Afrique, ça devrait être normalement des moments d'espoir, des moments de bonheur. Mais malheureusement, les élections en Afrique s'apparentent à des périodes d'incertitude, à des périodes d'inquiétude, et qui se déclinent donc au final par des crises à n'en point finir. Qui peuvent aller jusqu'à la guerre civile, à l'arrestation d'hommes politiques, des civils, jusqu'au meurtre. Donc au final, l'élection en Afrique est devenue un moment d'inquiétude et très, très difficile à appréhender.
Alors, il y a, à un moment ou à un autre, il y en a toujours des élections en Afrique. Est-ce que tu peux penser à certaines élections en particulier qui étaient symptomatiques de ce phénomène?
Ben, je suis ivoirien, donc je me réfère à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire en 2011. C'est-à-dire que nous avons eu une campagne électorale très civilisée, il faut le dire, au premier tour, bien entendu, puisque nous avons eu deux tours. Donc le premier tour a été une campagne très civilisée. J'y étais d'ailleurs en tant que journaliste. C'était agréable à suivre cette campagne, une campagne basée sur un programme, sur les programmes des différents candidats. Et c'était bon enfant. Et lorsque nous nous sommes... Il y a eu même un débat télévisé entre les candidats au premier tour et ensuite au second tour. Alors, lorsque nous sommes passés au second tour, qu'il ne restait plus que deux candidats, les choses ont commencé à s'envenimer un tout petit peu, avec les partisans des deux côtés. La campagne ne s'est plus axée véritablement sur le programme, comme ça s'est fait au premier tour. La campagne s'est axée sur, je vais dire, le nationalisme, sur les étrangers, sur l'appartenance. Et ça a envenimé la situation en Côte d'Ivoire. Et on sait ce qui s'en est suivi.
Oui, oui. Alors, les causes de ceci, tu as déjà abordé un petit peu ça, mais pourquoi les élections en Afrique dégénèrent-elles? Parce que même si elles commencent bien, elles finissent mal.
Ben, je pense que c'est le fait que les politiques, dans un premier temps, ne cherchent pas à accéder au pouvoir pour répondre aux préoccupations des peuples, ne cherchent pas à accéder au pouvoir pour mettre en pratique les programmes de campagne. Ces politiques cherchent à accéder au pouvoir pour pouvoir s'accaparer des biens de ces pays-là, des biens des pays, faire en sorte construire une vie meilleure pour leur famille et non pour la population. Donc, je pense que c'est la recherche du profit, c'est la recherche de la richesse, c'est la cupidité qui pousse malheureusement certaines personnes à vouloir accéder à la plus haute fonction, c'est-à-dire à la magistrature suprême, à la présidente de la République, et ensuite faire des cadeaux à un cercle d'amis, ministres, et ensuite à les directeurs de société. Donc la vie du peuple qui prime, c'est plutôt la vie de leur famille et de leur clan qui prime sur celle de la population de façon générale.
Donc le profit personnel, parce que bon, on en parlait un petit peu avant cette entrevue, Mohamed, ça existe dans d'autres pays aussi, pas seulement l'Afrique, mais est-ce que c'est simplement plus poussé en Afrique, tu dirais, que ce phénomène?
Le phénomène est comparable aussi à l'Amérique du Nord, ouais. À l'Amérique du Sud, c'est ça. L'Amérique du Sud, aujourd'hui, on voit hein, avec d'autres pays comme le Brésil, le Venezuela et consorts. Mais le truc, c'est qu'en Afrique, quel que soit ce qui va se passer après, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une impunité qui s'installe. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il y a 3000 morts après les élections présidentielles. 3000 morts.
C'est énorme, oui.
Une élection présidentielle qui a pour vocation à choisir un leader, un président de la République et qui va ensuite mettre en place son programme gouvernemental. Alors, pourquoi 3000 morts? Ça voudrait dire que derrière cette parade électorale, il y a tout un enjeu lié aux intérêts personnels de ceux qui aspirent à la présidence. Donc, je pense que l'Afrique offre l'opportunité, malheureusement, pour ce genre de conflit. Ouais. D'autant plus que la population étant pauvre, on a plus de force de recruter des jeunes désœuvrés, des jeunes qui n'ont pas à manger, pour pouvoir envenimer la situation à tout moment. Voici la situation comme elle se présente.
Alors, les conséquences, tu as déjà abordé un petit peu ça, mais elles doivent être dramatiques sur les espérances, notamment des gens qui vont voter, n'est-ce pas?
Ben oui, d'abord, les gens ont de plus en plus peur de s'inscrire même sur une liste électorale et ensuite sortir à aller voter. Quand on sait qu'à chaque élection, il y a des morts, au final, on s'est dit, ben, je préfère rester à la maison pour ne pas faire partie de ce chiffre ou de ces chiffres qui vont donc plus tard être annoncés. Pourtant, nous étions partis pour acquérir ou conquérir de l'espoir, malheureusement. Donc, il y a ce point-là. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la déstabilisation, c'est-à-dire que le pays va être déstabilisé, non seulement au plan politique, mais aussi au plan économique. Ce qui va engendrer, bien entendu, la mise en place ou la création ou l'avènement de rébellions, de bandes armées, qui vont à leur tour revendiquer un certain nombre de choses, d'autant plus que l'élection en elle-même n'a pas été crédible. Il y a la contestation des opposants. C'est-à-dire que c'est le pays qui perd en crédibilité grand. Ouais. Et par ricochet, la population va trinquer, quoi. Elle souffre. Et combien d'années ça va durer?
Alors, ben justement, on commence à parler un petit peu de l'avenir. À l'avenir, d'après toi, Mohamed, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des pistes pour résoudre ce problème?
Bon, ça reste théorique. De toute façon, il va falloir que nous ayons des commissions électorales indépendantes, de façon sommaire comme ça. On a tendance à croire que les commissions électorales en Afrique sont indépendantes. En tout cas, c'est ce qu'on trouve sur le papier. Mais quoi qu'il en soit, ces commissions électorales sont pilotées par des proches du parti au pouvoir. C'est-à-dire, le chef d'État sortant a toujours la même mise sur la commission électorale. Ouais. Même si quelques représentants de l'opposition y sont, mais c'est le candidat sortant qui a toute la machine pour les décomptes, pour la proclamation des résultats, pour légitimer la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. C'est hallucinant, c'est incroyable, c'est difficile à comprendre. Donc, ouais, il va falloir qu'on ait une commission électorale indépendante vraie et qu'ensuite on ait une Cour suprême, je vais dire, qui soit vraiment au niveau, qui soit indépendante, qui ne cherche pas à favoriser l'un ou l'autre, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays, hein, c'est pas tous les pays africains qui sont dans ce schéma-là. Hein. Il y a le Ghana qui organise des élections transparentes, crédibles. Il y a le Sénégal. Il y a bien d'autres pays qui y parviennent.
Est-ce que avoir la présence d'observateurs étrangers, souvent il va y avoir des observateurs étrangers qui sont là pour regarder si les élections sont légitimes ou pas. Est-ce que d'après toi, ça a une influence ou pas?
Ah non, pas du tout. Ça ne règle d'ailleurs pas le problème. Ouais. Parce que ces observateurs, quand ils arrivent, il y en a qui font effectivement leur travail. Mais est-ce que leurs rapports sont pris en compte par le pays même qui a accepté de les accréditer? Et ensuite, quand bien même que la communauté internationale plus tard va chercher à faire respecter le rapport de ces observateurs, mais on voit bien que plus tard les choses finissent par rester comme le pays où le président sortant l'a souhaité ou celui qui s'est déclaré vainqueur l'a souhaité. Regardez bien le cas du Gabon. c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il est clair que l'opposant au président sortant a remporté l'élection. Au départ, c'est toute une communauté internationale qui s'est mobilisée pour dénoncer la confiscation du pouvoir par le clan Bongo, qui a au départ essayé de mettre quelques sanctions, non, même pas des sanctions, mais des menaces de sanctions. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de sanctions. Et je crois que tout récemment, le président Macron a envoyé un message de félicitations lors de la fête d'indépendance au président gabonais. Donc, cela légitime le pouvoir du Gabon. Et ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui au Gabon. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on va contester, on va menacer. Mais une fois que le mec arrive à s'implanter, c'est terminé. Et ça va nulle part. Donc les observateurs internationaux, c'est bien d'entendre ça, mais ça ne sert absolument à rien. Ce sont des dépenses...
La solution appartient... Comme tu l'as déjà dit dans les chroniques précédentes, la solution appartient aux Africains, j'imagine.
Absolument, absolument, aux Africains. Et il faut éduquer l'Afrique, il faut continuer à éduquer. Moi, je pense que la solution se trouve dans l'éducation, dans le savoir, absolument.
Eh bien, merci sur ce mot de sagesse, Mohamed, et puis on te retrouve pour une prochaine chronique, n'est-ce pas?
Je t'en prie, vas-y.
OK, et puis quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM 105.